Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
L'obésité est une maladie, pas un choix, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98FM en Ile-de-France et en DAB+. Et sur Facebook, toujours Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlons d'obésité. Petit Manu nous racontera comment l'obésité a été déclarée comme maladie.
Bonjour Didier, effectivement, il a très bien dit Didier. Je vous dirai comment ça a été comme maladie. Est-ce qu'on doit savoir? Peut-être que certaines personnes, c'est pas tout. Parce que tu dis qu'on parle de maladie, mais est-ce que les gens le savent? Ah bah ça, entre ce qu'on sait ou ce que c'est pas les gars. Toujours est-il, je vous en parlerai. Bonjour à tous, hello hello.
Marie-Christine nous fera un point sur les dispositifs publics pour l'accessibilité aux personnes en situation d'obésité.
Et oui, je vais vous parler des aménagements qui ont été prévus en matière d'accessibilité aux établissements et dans les transports en commun.
L'IMC est-il un indicateur suffisant pour diagnostiquer l'obésité? Notre invitée Anan Guillard-Méziane, directrice générale de la Ligue contre l'obésité, répondra à cette question notamment. Et Ponari se pose une autre question, l'obésité. Et si le corps parlait ?
Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose un autre regard sur l'obésité. Au-delà des chiffres et des régimes, explorons la dimension énergétique, psychique et spirituelle du poids. Et si le corps était aussi un messager ? Et si le bien-être passait d'abord par l'écoute plutôt que la lutte ? On découvre cette réflexion tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chansons qui dénoncent la grossophobie.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, la musique aide aussi les chanteurs à assumer leur corps et à s'assumer tels qu'ils sont. Certains chanteurs en ont profité effectivement pour dénoncer la grossophobie. Lesquels ? Eh bien, la réponse tout à l'heure dans mon quiz.
Quelle représentation de l'obésité dans la pop culture ? Réponse avec Eric en fin d'émission.
Salut Didier, salut à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir ou redécouvrir deux personnages de la pop culture autour de la thématique de l'obésité. Donc, on a la courbe et l'extrémité de la courbe avec Obélix et le baron Harkonnen. À tout de suite dans la chronique.
Et l'émission Mangan dans une main de velours. Il pense à tous les détails. Des fois, on se fait engueuler. La semaine, on travaille.
Bon, souvent, tu te fais engueuler.
On fait ci, cela. Le cher ami.
Eric.
C'est pourquoi? Parce que t'as parlé d'Eric et j'ai fait la tise. Je sais pas pourquoi on pense à lui.
Didier,
je
m'appelle Didier.
Didier, c'est ce que je voulais dire. Il fait la technique, il est éclectique. C'est le créateur de l'émission, on peut l'applaudir.
Didier.
Je viens comme on dit, petit Manu, le créateur de l'émission.
Le créateur de l'émission.
On dirait qu'il dit le cratère de l'émission.
Déjà, ça commence. Le créateur de l'émission. Faut bien articuler phonème par phonème. Créateur. Le maître de l'émission.
De l'univers. Créé. Allez, le maître de l'univers est pour l'emprunter.
Le maître, celui qui a créé l'émission.
Big Bang.
Oui, et d'ailleurs, on fera une émission sur le Big Bang dans quelques semaines. Et les maîtres de l'univers va sortir en film aussi.
Pour tous ceux qui veulent. À quoi ce monde en a parlé, faudrait se préparer.
Tu peux chanter le générique?
Je préfère.
Les maîtres de l'univers.
Non, mais comme tout enfant, on a suivi.
Marie-Christine, elle ne connaît pas.
Non.
Manu.
Les maîtres de l'univers, c'est
Musclor. Exactement, Musclor. Moi, j'étais avec son tigre aussi, comme ça, ensemble. J'étais versé aussi.
Alors, Ponari me demande c'est qui l'acteur, je sais pas.
Henri Cavill ou Thor, celui qui fait Thor là.
D'accord. Mais effectivement, elle est bien au courant, Ponari. Mais j'ai été percé, on était tous percés, mais je préfère pas
le
chanter.
Le méchant.
Ah, ça le méchant, c'est.
Skeletor.
Oh là là, moi j'ai regardé ça.
Mais moi je regardais ça quand j'étais
jeune. Tiens, on pourra faire une posée de questions. Qui a regardé justement ce dessin animé? Il y en a plus d'un.
Bref.
Bon, enfin, revenons à ta super émission.
Sur l'obésité.
Exactement. Le thème d'aujourd'hui.
L'obésité touche aujourd'hui plus de 650 150 millions de personnes dans le monde, mais il a fallu attendre 1948 pour qu'elle soit enfin reconnue comme une vraie maladie. Petit Manu nous raconte cette révolution médicale.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama.
Donald Trump. Il arrive. Milton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake.
Lady Dada.
Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas.
Quoi?
Alors, toute personne confondue, et déjà en faisant l'introduction, il est du tout notre cher Didier de choc. Salut les curieux. Enfin, aujourd'hui, on parle de l'obésité. Comme a très bien narré notre cher ami Didier, c'est en 1948 à Genève. L'Organisation Mondiale de la Santé, tout jeune, puisque ça a été créé cette année, et ça prend une décision révolutionnaire. Classer l'obésité dans sa liste officielle des maladies. Imaginez-vous que le scandale, pendant des siècles, l'obésité était vue comme un défaut moral. Un manque de traitement, les personnes obèses étaient stigmatisées, culpabilisées et jamais soignées. Mais les médecins de l'OMS ont des preuves. L'obésité augmentera drastiquement les risques de diabète. Ah oui, pour la santé, c'est y penser. Des paresses, c'est une pathologie complexe avec des causes génétiques, hormonale, psychologie. Il faut savoir que cette reconnaissance de 1948 change tout. Fini les jugements moraux. Place au diagnostic médical. Les patients peuvent enfin consulter sans honte. Bah, les recherches se multiplient et les traitements se développent. Résultat, on découvre que le leptine, c'est... Alors, vous savez ce que c'est le leptine? Question au hasard. Moi, j'apprends l'instant en faisant conduire. Alors, le leptine, plutôt, c'est l'hormone de la satiété. En 1994, on comprend le rôle de microbiote intestinal. On développe...
Intestinal. Masculin. Ça. Masculin au pluriel, c'est intestinal.
Oui, enfin, c'est micro-intestinal. On développe la chirurgie...
Intestinal avec un S, tout.
Voilà. On développe la chirurgie bariatrique. 75 ans plus tard, la lutte continue, mais grâce à cette décision de 1948, comme tu as très bien dit, président Didier, l'obésité est enfin traitée comme son... Comme une maladie. Et c'est plus un défaut de caractère. Donc maintenant, on peut oser. Et j'ai même vu une émission de télévision dernièrement. Il y a une personne obèse qui a pris un médicament. Elle a minci.
Et oui, il y a des médicaments. Oui,
il y a des médicaments maintenant, récemment. En tout cas, maintenant, il y a les bons conseils de notre chère Marie-Christine.
On en parlera avec notre invité sur les solutions.
Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va dire, Fonari. Mais enfin, voilà ce qu'il faut savoir. Toute personne confondue.
Merci Petit Manu.
Avec plaisir.
Environ 2 millions d'établissements recevant du public existent en France. Environ 50% sont conformes. Les dispositions publiques en matière d'accessibilité pour les personnes en surpoids relèvent principalement du cadre légal de l'accessibilité universelle qui vise les personnes handicapées ou à mobilité réduite, incluant souvent celles avec obésité sévère, limitant la mobilité. Comme va nous en parler Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors en France, il n'existe pas de loi spécifique pour les personnes en situation d'obésité en matière d'accessibilité dans les établissements recevant du public. Les normes s'inscrivent dans le cadre général des personnes à mobilité réduite. Alors la largeur des portes d'accès, 90 cm, passage utile de plus de 77 cm pour les portiques de sécurité.
Même chez les particuliers, parce que quand tu achètes maintenant une nouvelle porte, que tu veux la mettre sur un ancien cadre, ça rentre plus.
Ça se fait, quoi. On peut s'adapter, ça s'adapte, quoi.
C'est vrai que dans les appartements anciens, les salles de bain ou tout ça, même les toilettes...
Moi j'ai une porte de toilette de 60 cm.
Non,
60, c'est juste, hein.
60, c'est juste. Donc il faut... Tu pourras pas le vendre à...
Ah oui, et puis il n'y a pas possibilité de toute façon d'agrandir les toilettes.
Non, des fois on peut... Ouais. Non, je sais pas comment on peut faire. Ouais.
Enfin, il y a des couloirs. Enfin, ça, c'est pour les nouvelles constructions, quoi. Ils respectent ce genre de normes. Oui. Alors, les couloirs et circulations horizontales, au moins 90 cm de large. Les ascenseurs, les cabines doivent faire plus de 1,10 m sur 1,40 m et les portes plus de 80 à 90 cm. Les sanitaires doivent mesurer plus de 1,50 m sur 2,20 m avec des toilettes à 50 cm de hauteur.
Parce que bon, là, tu parles de l'ouverture des portes.
Ah ouais, ouais.
Parce que l'ascenseur à 1,40 m, c'est pas la.
Oui. Non, c'est la largeur, la surface. Les sanitaires donc, doivent mesurer plus de 1,50 m sur 2,20 m. Les lavabos doivent être adaptés. Et il faut qu'ils aient des compteurs d'accueil surélevés. Des places de stationnement
en plus voiture, large.
Beaucoup plus large, à 3,30 m, large sur 5 mètres de long. L'accessibilité des transports en commun et des avions pour les personnes obèses suit le cadre des personnes à mobilité réduite, ou PMR. Sans normes spécifiques à l'obésité, mais adaptées aux besoins de mobilité réduite.
Oui, parce que si une personne est en fauteuil roulant ou si elle est obèse, c'est vrai que ça demande plus de place.
Et puis je pense
qu'on
doit l'aider, on doit l'aider.
Et puis pareil, il y a un service aussi qui aide dans les arrêts.
Oui, il y a un service qui est gratuit en général. Il faut mettre son handicap avant avec son billet d'avion et à l'aéroport, on vient de chercher en fauteuil roulant.
Et puis on a peut-être une carte pour expliquer.
On a l'accès plus facile, on ne fait pas la queue. Enfin voilà. Alors les bus, les trams et les métros doivent respecter des schémas directeurs d'accessibilité. Alors, les bus, il y a des rampes déployables, des espaces dédiés.
Non, bonjour.
Elle n'a pas compris, c'est trop.
Des espaces dédiés.
Il y a maintenant des espaces dédiés. Peut-être bientôt. Hein.
La largeur doit faire plus de 1,40 m. On le voit des fois, c'est le fauteuil roulant pour les poussettes. Ouais. Et la largeur de passage d'au moins 90 cm. Mais c'est vrai que j'en profite pour cette émission de déplorer que les métros qui ont été refaits, très peu de stations, ont des escaliers roulants et des ascenseurs pour qu'on puisse descendre. Donc on voit plein de personnes âgées qui ne peuvent pas prendre le métro. Ou bien même avec une valise, on est handicapé.
Bah, c'est vrai que pour tout ce qui est établissement public, c'est tellement ancien que des fois, c'est quasiment impossible de rendre accessible.
Mais je crois que c'est même pas envisagé.
Je pense que c'est pour les nouvelles constructions, mais après les anciennes, c'est pas possible.
Parce qu'il y a des métros dans des pays étrangers, on voit bien qu'il y a des escaliers roulants partout. Mais là, en vieillissant, on s'aperçoit que c'est pas possible.
Eh ben, merci Marie-Christine. Comment définit-on médicalement l'obésité aujourd'hui? L'IMC est-il un indicateur suffisant pour diagnostiquer l'obésité? Pour répondre à ces questions, nous avons Anan Guillard-Méziane, directrice générale de la Ligue contre l'obésité au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Comment on définit médicalement l'obésité aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'obésité est reconnue par l'OMS comme une maladie chronique. C'est pas une question de poids ou une volonté, c'est vraiment une maladie complexe et multifactorielle qui va se définir dans un premier temps avec l'IMC. Elle est généralement diagnostiquée à partir d'un IMC, donc c'est un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré.
D'accord. On calcule comment un IMC, pour rappel?
C'est le poids par la taille au carré.
D'accord. La taille en centimètres ou en mètres? Non, en centimètres.
En centimètres.
Voilà.
Ça reste un chiffre. Hein. Au-delà du chiffre, il s'agit d'une pathologie, donc multifactorielle, comme je l'ai dit, et complexe, impliquant aussi de nombreux facteurs biologiques, génétiques, environnementaux, psychologiques et sociaux. En 2025, une nouvelle définition de l'obésité a intégré l'obésité avec des signes précliniques et cliniques. Mais là, je vais pas tout détailler parce que, bon, je suis aussi diététicienne au CHU de Montpellier, en plus d'être directrice d'une association de patients, qui est la Ligue nationale contre l'obésité. Je vais pas aller parce que ça va être trop, mais c'était pour redire que l'IMC est un point d'entrée, mais pas que. Puisque l'IMC est beaucoup remise en question. Vous pouvez avoir un athlète qui va avoir un IMC supérieur ou égal à 30 kg. Par mètre carré.
Et qui n'est pas forcément
obèse. Mais qui ne sera pas en situation d'obésité.
D'accord. Et le manque de sommeil, alors, est-ce que c'est un facteur majeur de l'obésité?
Oui, tout à fait. Alors, sur les patients que je consulte, quand il y a une prise de poids, qui viennent nous voir sur le parcours post-chirurgie bariatrique et qui ont une reprise de poids, on leur demande comment ça va, le sommeil, est-ce que vous dormez bien? Et oui, le manque de sommeil est un facteur reconnu. Parce que pourquoi? Parce qu'il perturbe les hormones régulant la faim. Donc, ce qui régule la faim, c'est l'hormone qui s'appelle la gréline. Et ce qui va réguler la satiété, c'est la leptine. Augmenter l'appétit et de ce fait, en fait, avec cette perturbation hormonale, elle va augmenter l'appétit et favoriser les comportements alimentaires déséquilibrés, favoriser donc du coup les grignotages, les prises de sucre isolées qui va générer de l'insuline et qui va favoriser le stockage des graisses.
Il n'y a pas que ça, non, dans le manque de sommeil, est-ce qu'il y a aussi le fait que le corps, vu qu'il ne dort pas quand il devrait dormir, est-ce qu'il du coup transforme directement, en gros, hein, je schématise, les calories en graisse?
Non. J'essaie de vulgariser. Alors, la digestion demande beaucoup d'énergie au corps. Donc, si vous voulez, par exemple, on va vous demander de pas consommer d'aliments trop gras avant de dormir. Pourquoi? Parce que la digestion va être longue. Et lorsque la digestion va être longue, le cycle de sommeil va pas se mettre en place. Plus la digestion est longue, plus elle va venir interférer avec le cycle du sommeil. On va favoriser donc un temps de digestion pour pouvoir laisser le temps, le cycle du sommeil avec le cycle circadien se mettre en place et qui va permettre de vous régénérer pendant le sommeil. Pendant le sommeil, là, on va consommer. C'est une fausse idée de se dire, mais quand on dort, on ne consomme pas. Si, le corps se régénère. Ouais. Donc, on a besoin d'énergie, donc on a besoin de glucides, de protéines, on a besoin d'énormément de choses pendant cette phase de sommeil où le corps se reconstruit. Ouais. Donc, oui, si toute la journée, vos repas ne sont pas équilibrés, s'il y a beaucoup trop de grignotage, eh ben, le sommeil va être perturbé et du coup on régénère pas bien notre corps et c'est un cercle sans fin en fait, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc forcément, si la journée on n'a pas un bon équilibre alimentaire, le soir on n'a pas un bon sommeil et ainsi de suite. Donc il faut essayer de rompre ce cercle là avec des règles d'hygiéno-diététique les plus correctes possibles.
Les inégalités sociales, elles influencent le risque d'obésité parce qu'on a l'impression que les gens un peu plus pauvres sont plus touchés par l'obésité que les gens qui ont beaucoup plus les moyens.
Alors oui, absolument. Absolument, l'obésité est fortement corrélée aux inégalités sociales. Hein. L'accès à une alimentation de qualité, aussi le temps disponible au niveau... pour avoir le temps de l'éducation en santé, un suivi médical, tout ça aussi joue aussi un rôle très déterminant. Mais l'obésité est aussi un marqueur d'inégalité territoriale et aussi socio-économique. Si vous regardez notre étude qui a été portée, qui s'appelle OFEO par les laboratoires Novo Nordisk et nous, il y a une prévalence en fonction des régions où l'obésité est plus importante. C'est aussi les régions où, au niveau de l'emploi, le taux de personnes sans activité est beaucoup plus élevé.
C'est vrai que les aliments les moins chers, notamment dans les grandes surfaces, sont celles où il y a beaucoup de conservateurs, où c'est très salé, très sucré. Et je suppose que ça joue un...
Donc, les personnes en situation de précarité vont forcément avoir un budget alimentation restreint et forcément aller vers les produits qui vont être de moins bonne qualité. Alors, nous, on va œuvrer avec la Ligue pour essayer d'avoir une alimentation, donc c'est aussi le projet de Diète à Dom, d'avoir une alimentation avec une consommation locale et de saison qui va permettre de réduire ces achats de consommation de produits premier prix, où ces produits premier prix sont riches en additifs, trop sucrés, trop salés ou trop gras,
oui.
Et qui va générer de l'obésité.
Mais... Et en fait, il est difficile de maintenir une perte sur le long terme. On a l'impression que le corps, il a un poids naturel défini. Et quoi qu'on fasse, ça revient un peu au galop.
Oui. Effectivement, dans l'idée, chaque individu est différent. Chaque individu a son propre métabolisme. Il faut la prise en charge de l'obésité et pour ce faire multifactoriel avec un diététicien, médecin endocrinien, et un préparateur physique. Pourquoi? Puisque chaque métabolisme est différent. Il y a certaines personnes qui ont cette obésité ou un trouble du comportement alimentaire depuis la depuis tout jeune et qui n'arrivent pas à se stabiliser. Donc on va les accompagner. Mais faut toujours mettre en place des choses qui vont être dans la durée. Mais pour que ces choses soient ancrées dans la durée, il ne faut pas que ça soit des régimes restrictifs. Un régime restrictif, on n'obtiendra rien. Il faut que ce soit quelque chose qui soit cohérent avec le rythme de vie de la personne, donc avec son mode de travail, avec son rythme de vie et avec surtout ses qualités et ses envies. Quand on adapte la prise en charge des personnes en situation de surpoids ou d'obésité, eh ben on peut essayer de maintenir ce poids, tout en sachant que tout au long de notre vie, on est tous face à des dérèglements hormonaux, on vieillit, voilà, il y a certaines phases où il va falloir adapter son équilibre, adapter ses activités physico-sportives. Voilà, il faut tout au long de la vie réadapter ses règles d'hygiéno-diététique.
Alors moi j'avais une question, puisque c'est actuellement, c'est pour le Ramadan. Vous venez d'expliquer que les repas du soir, il fallait qu'ils soient légers pour faire une digestion assez courte et que ça ne perturbe pas le sommeil. Or, moi j'ai constaté en voyageant que quand les gens faisaient le Ramadan, c'est au contraire le repas du soir qui était important, puisque c'était le moment où ils mangeaient. Est-ce que ça perturbe? Est-ce que ça a eu des incidences sur l'obésité le reste de l'année ou ça n'a une incidence que temporairement?
Alors, le corps reste le même hein, pendant le Ramadan et la digestion reste la même. Par contre, étant donné qu'il y a eu cette période de jeûne, il faut quand même favoriser des aliments, toujours avoir les nutriments qui sont protéines, glucides et fibres, et s'il est possible, d'avoir des viandes, poissons, œufs, qu'on appelle des viandes protéines maigres, qui ont un impact de digestion faible. On va pouvoir se rassasier et choisir des glucides de bonne qualité. Donc des glucides de bonne qualité, donc c'est tout ce qui est des pâtes complètes qui vont vous apporter de l'énergie sur le long terme. Et surtout, essayez d'éviter tout ce qui va être très sucré, très gras, qui va venir interférer avec la digestion et de ce fait aussi perturber votre cycle de sommeil. Donc pour pouvoir avoir... et garder, si on est dans un souhait de pas avoir de prise de poids, parce que pendant le jeûne du Ramadan, c'est compliqué de mettre en place un régime pour une perte de poids, parce que voilà, c'est une période de jeûne qui est assez intense. On va favoriser les glucides de bonne qualité, donc pâtes complètes, riz complet, fibres, et protéines à faible des protéines maigres. Oui. Est-ce que j'ai été claire?
Oui, non, c'est parce que c'est une période où ils mangent beaucoup. Et puis après, bon, ils dorment. Et après, vers 5 heures du matin, ils reprennent encore un repas avant le lever du jour. Donc, c'est pour ça que ça paraît un peu déséquilibré avec le sommeil, quoi.
Oui, ça paraît déséquilibré avec le sommeil, mais tout en sachant que si on prend des aliments, faut vraiment penser à prendre des aliments qui ont une digestion faible. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de prendre le soir des protéines végétales. Donc là, on est sûr qu'on va venir interférer avec le cycle du sommeil. Pour le matin, quand le repas avant le lever du sommeil, là, on va essayer de prendre des aliments qui vont nous apporter aussi de l'énergie sur le long terme. Et penser à l'hydratation qui va venir hydrater les fibres et améliorer la digestion et pouvoir atteindre la satiété.
Et dernière question, quelles sont les solutions actuelles? On a entendu parler évidemment de 2-3 médicaments.
Oui, les analogues du GLP-1, c'est ça. Bon, c'est les TMO, donc les traitements médicamenteux obésité. Donc, oui. Pour ces médicaments-là, comme pour la chirurgie bariatrique, il faut toujours garder en tête que ces médicaments-là, ils doivent, on est OK pour qu'un patient puisse les mettre en place, mais ils doivent être intégrés dans un parcours avec différents spécialistes et sur le long terme. Et en gardant en tête que c'est un médicament qu'on va vous donner sur une période donnée, que autour, il faut bien commencer à installer l'équilibre alimentaire et l'activité physique. Ça va être juste un coup de pouce sur un moment donné. Oui. Pour votre perte de poids, pour pouvoir réguler tout ce qui est syndrome métabolique, diabète de type 2, apnée du sommeil, etc. Mais les efforts devront quand même être mis en place en complément de ce TMO, de ce traitement médicamenteux obésité.
D'accord. Eh ben merci Anan Guillard-Méziane, directrice générale de la Ligue contre l'obésité.
Oui, ça.
Et maintenant, on prend un peu de hauteur. L'obésité est souvent abordée sous l'angle médical, statistique, nutritionnel. On parle d'IMC, hein, on en a parlé avec notre invité, de calories, de risques pour la santé. Mais si le corps racontait aussi autre chose, Ponari, dans sa chronique Bien-être, nous propose justement de changer de regard, non pas pour nier la réalité médicale, mais pour explorer une autre lecture, celle du corps comme messager, comme mémoire, comme protection parfois, une approche sensible, nuancée, qui invite à écouter plutôt qu'à juger. Et retrouver la chronique Bien-être.
Bah, de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit. On est rempli d'émotions. Les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotions.
La chronique Bien-être de Ponari.
On parle souvent de l'obésité en termes de calories, de chiffres, d'indices, de masse corporelle. On la mesure, on la calcule, on la corrige, mais si pour l'instant, on changeait de regard? Et si le corps n'était pas seulement un organisme, mais aussi un langage? Dans de nombreuses traditions spirituelles, le corps est considéré comme un miroir de notre monde intérieur. Pas comme une punition, pas comme une faute, mais comme une expression. Sous un angle énergétique, le corps stocke. Il stocke de l'énergie physique, bien sûr.
Et oui, et pas que de la graisse.
Exactement. Mais certains diront aussi qu'il stocke des émotions non digérées, type la peur, la tristesse, l'insécurité, parfois le besoin de protection. Et psychiquement, le poids peut parfois fonctionner comme une armure. Une protection inconsciente contre un monde perçu comme agressif.
Ouais, c'est vrai.
Une manière de prendre de la place quand on ne se sent pas reconnu. Ou au contraire, une manière de se rendre invisible.
Ouais, c'est vrai que le stress fait grossir.
Oui, mais j'ai une question. Ce que je vais poser comme question, c'est une sorte de déprime. Et quelque chose, tu es en train de dire, c'est avoir la philosophie, l'empathie. Et l'empathie, la philosophie, c'est bien ça.
On peut se sentir effectivement invisible lorsqu'on est
complètement, parce que quand on est déprimé, eh ben le corps réagit. Et bien souvent, on dit que des fois, les personnes qui dépriment, un set de chocolat noir, et pareil, ça leur donne le moral. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui.
Ah, voilà, c'est de bon. Voilà. Ah, tu clarifies.
Attention, il ne s'agit pas de dire que toute obésité a une cause émotionnelle, évidemment, parce que ça serait.
Mais tu dépends si on a affaire.
Et faux. Mais les facteurs biologiques, hormonaux et environnementaux existent et sont réels. Mais l'être humain n'est pas qu'un métabolisme. Il est aussi une histoire. Et dans certaines approches psychocorporelles, on observe que le rapport à la nourriture est souvent lié au rapport à l'attachement. Donc manger peut devenir un refuge, une régulation émotionnelle, un apaisement immédiat quand le système nerveux est saturé. Et spirituellement, la nourriture touche à quelque chose de très symbolique. Nourrir, être nourri, recevoir, combler un vide. Et la question devient alors plus subtile. Quel vide cherche-t-on à combler? Quelle sécurité cherche-t-on à créer? Donc dans une lecture énergétique, le corps peut être vu comme un réservoir. Et si l'on vit dans l'hypervigilance, dans le stress chronique dont tu parlais, le système nerveux reste en mode survie. Et un corps en survie cherche à conserver, à stocker, à ne rien perdre. Ce n'est pas un échec moral, c'est un mécanisme archaïque de protection. Et certaines traditions parlent aussi du rapport à l'ancrage. Prendre du poids peut symboliquement renforcer le lien à la matière, au sol, à la stabilité. Comme si le corps cherchait inconsciemment à dire « je veux tenir, je veux rester ». Il est intéressant de remarquer que dans les périodes de grands bouleversements émotionnels, type les deuils, les séparations, l'insécurité, le poids peut fluctuer. Le corps réagit à ce que l'esprit traverse en fait. Alors que faire de cette lecture ? Ne pas se culpabiliser, ouais. Ne pas tout interpréter, mais peut-être s'interroger avec douceur. Si mon corps me parle, que raconte-t-il ? De quoi ai-je manqué ? De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce que j'essaye de protéger en fait ? Et le bien-être, dans cette perspective, ne commence pas par une restriction, il commence par une écoute. L'écoute du corps, l'écoute des émotions, l'écoute des besoins profonds.
À lâcher prise, quoi.
Oui. Et parfois, la transformation ne vient pas d'un régime, mais d'un travail intérieur.
C'est vrai.
Qui est complémentaire hein, au régime, comme apaiser un trauma, restaurer l'estime de soi, se sentir en sécurité.
La confiance en soi, des fois.
Voilà. Et quand le système nerveux se détend, quand l'émotion trouve un espace d'expression, le corps peut lui aussi se relâcher. Donc cela ne signifie pas que le poids disparaît miraculeusement, mais cela signifie que la relation au corps change. Et cette relation-là, elle est fondamentale. Dans une vision spirituelle plus large, le corps n'est pas un ennemi à combattre, en fait. Il est un allié. C'est notre véhicule, voilà. Et même quand il nous dérange, peut-être que l'obésité, au-delà des chiffres, pose une question existentielle. Comment habitons-nous dans notre corps ? Et sommes-nous en guerre contre lui ? Ou prêts à l'écouter éventuellement ? Et si la première étape du bien-être n'était pas de maigrir, en fait, mais de se réconcilier avec soi-même ? Parce qu'un corps qui se sent en sécurité n'a plus besoin de se détendre.
Bravo !
Ouais,
bravo.
J'ai entendu dire, alors là ! Alors,
petit voilà. Manu était bouche bée.
Ah non, mais j'étais ému, mais t'as raison, parce que tout ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai une question à te poser, excuse-moi.
C'était changer de regard.
Ah, attends, attends, attends.
Mais non, bout... mais c'est bien de faire alors... une émission ah, non, sur ce là, terme d'obésité suis... qui est quand même mais assez physique que... et contrebalancé
très,
par...
Très pragmatique et à la fois, il y a des voilà. Significations.
Bah ouais, sans compter que ça atteint c'est... tout le monde.
Ah bah oui,
il a été préoccupé par... Bah ouais. Par les bouleversements de son corps, ben ouais. même un kilo, deux kilos.
Ben ouais, il a pas Mais alors, j'ai une question à te poser. Au monde dans lequel on vit, avec tout ce qui passe, les gens n'écoutent plus leur corps. Bien souvent, c'est peut-être une question. Ils sont un peu dans leur bulle, le stress.
Ils n'écoutent pas, je pense qu'on oublie de l'écouter.
Ah oui, on oublie. Donc, autrement dit, il faudra faire...
D'être en conscience avec son corps.
Reprenez vos attitudes, reprenez ce que votre corps vous dit. Punaise, alors là...
Écoute Ponari, parce que, en gros, le sommeil, petit Manu, faut que tu dormes. La nuit, il dort pas. Alors, pour la petite anecdote, je l'ai appelé ce matin à 5h30 du matin. Oui, je me suis levé à 4h30, j'arrivais plus à dormir. J'appelle à 5h30, je me dis, tiens, je vais appeler Manu. Ah, mais il dormait pas.
Non, mais je travaillais.
Il dit oui.
Parce que je travaillais sur mes applications.
Alors, il n'était pas déjà levé. Il n'était pas encore couché, en fait. 5h30 du matin.
Et je peux vous dire que.
Parce que c'est un oiseau de nuit.
Oui. Bah, j'ai deux, parce qu'on travaille. Il n'y a pas les gens de Jules, hein. Moi, j'ai une carrière à t'aider. Et en plus, je me suis levé. J'ai carrément oublié mon rendez-vous. Mon ergologue.
Et du coup, tu t'es couché à quelle heure cette nuit?
J'ai dormi un peu. Je me suis levé, j'ai prévu. Et puis, je suis parti après. Mais après, je me suis couché. Ah, j'avais pas dormi, quoi. Ah non, mais c'est vachement
bien. Donc, il faut dormir.
Non, mais je sais. Non, mais t'as raison. Mais c'est vrai qu'on peut tomber malade, là. Mais j'arrive à dormir quand même. Mais waouh! C'est vrai que j'avais pas dormi quand il m'a appelé, quoi. On n'avait pas les mêmes horaires.
Eh ben, merci, Ponari. Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale. Commençons par de la musique.
Musique! Ah, oui, musique, qu'est-ce que.
La musique. Et aussi un espace de revendication, d'acceptation et de fierté. Depuis plusieurs années, des artistes utilisent leurs chansons pour dénoncer la grossophobie et revendiquer le droit d'aimer son corps tel qu'il est. La chanteuse américaine Lizzo a par exemple revendiqué l'acceptation de son corps dans ses chansons. En France, l'un des exemples les plus parlants est la chanteuse Ize.
Ah oui, une nouvelle artiste.
Quelles sont les autres chansons qui dénoncent la grossophobie ? La réponse dans le quiz de...
Kevin ! Enfin, je crois qu'il y a eu depuis un certain temps, voyons sa tête.
Là, tu parles de la chanteuse, pas de Kevin.
Iso.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais ils sont trois. Allez, les amis.
Évidemment, certains artistes ont revendiqué l'acceptation de leur corps à travers leurs chansons. Alors, c'est le cas de ce chanteur, même s'il n'est pas en situation de surpoids, il a fait une chanson où il s'adresse aux femmes qui ont des complexes. Est-ce que vous l'avez reconnu, cet artiste qui est très célèbre ?
Walks into the room, feels Mika.
Mika, tout à fait.
Ah, oui, oui, mais Mika, il a pas froid aux yeux. Hein. Oh là là, il chante, il transpire. Et...
Mais oui, il était en concert à l'Accor Arena il y a quelques temps. L'Accor Arena, c'est quelle salle à ton avis?
Ah, merci.
Tout à fait, oui.
Dans le 12e arrondissement.
Petit Manu rêve d'y aller.
Oh bah j'ai déjà été.
Ah hein. Il a été mais pas chanté. Il a
non,
juste
non,
été
non,
voir.
Non, non, j'ai déjà été. Non, 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 non.
Et oui, Mika, avec cette chanson intitulée You Are Beautiful de 2007, cette chanson qui est un hymne festif où il s'adresse aux femmes grandes, mais tout en les invitant à célébrer leur beauté et leur confiance. Et dans cette chanson, il invite les femmes à assumer leur corps, à ne pas se laisser enfermer dans des standards de minceur et à revendiquer leur sexualité malgré leur physique. C'est une chanson qui se veut joyeuse, dansante, presque carnavalesque. Et c'est une chanson pop festive qui célèbre les femmes rondes avec humour et bienveillance. On passe à une chanteuse qui est américaine. Mirror, mirror on the wall, don't say it cause I know I'm cute. Oh, Louis, mirror to my drawers, LB, all on my shoes. Alors non, pas tout à fait, non, pas de Dua Lipa. C'est une chanteuse que j'ai énoncée dans le lancement. Est-ce que t'as une idée, Didier?
Lizzo?
Non, elle est américaine.
Oh bah c'est Lizzo.
Lizzo, tout à fait. Avec cette chanson intitulée Juice de 2019. Cette chanson qui célèbre, une chanson dans laquelle elle célèbre l'acceptation de son corps, la fierté d'être différente et la sensualité assumée malgré son physique. Et à travers cette chanson, elle ne répond pas aux critiques, elle ne se place pas dans la posture de la star, c'est tout simplement une affirmation et non une justification. Et Lizzo est devenue l'un des symboles mondiaux du body positive. Et ses textes célèbrent la confiance en soi, la sensualité et l'estime personnelle. C'est une réponse directe aux normes de beauté restrictives. Je vous propose qu'on écoute ce titre.
Don't even gotta try. Now you know I like shouting, make it better over time. Now you know, heard you say I'm not the baddest bitch you like.
C'est facile à chanter, petit Manu.
Ou le refrain, oui.
Manu. Et on passe à une autre artiste française cette fois.
Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années.
Alors, elle a fait Nouvelle Star il y a une dizaine d'années. Elle a déjà reçu une victoire de la musique aussi.
Ah ouais, donc elle a déjà reçu des récompenses.
Exactement. Vous avez une idée?
Ma petite Manu pensait à Nana Mouskouri.
Non, pas du tout.
Mais elle a reçu une victoire de la musique.
Oui, aussi, mais Nana Mouskouri est grecque. Et je crois qu'elle a une corde vocale. Hein. Non, non.
Et
oui,
alors?
Oui, non, mais ça veut rien dire. Non, je pensais pas. Je cherchais. Je me concentrais.
Eh bien, bonjour à Nana Mouskouri. T'as une idée, Didier?
Non, j'arrive pas à tricher. Non.
Et Ponari?
Je sais bruit dans ma tête.
Ça commence par un Y. Je vous propose qu'on l'écoute.
D'accord, je cherche.
Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne.
Ponari nous dit que ça se prononce Isolt.
Ah ouais,
mais Isolt, moi je dis Isolt.
Si tu veux ta prénom, quoi.
Tout ouais. À fait.
Très joli.
Isolt avec cette chanson intitulée, à votre avis, pas obésité, hein.
Bah, obésité.
Ça commence par.
Non, c'est bien. Pas obésité.
Ah non.
Obésité.
Ah non.
Moi, j'ai la réponse sous les yeux.
Ah ouais, non,
pas.
Non.
Ça commence par un C, hein. Ça nous concerne, hein.
Tu Manu.
Bah, c'est.
Corps, tout simplement.
Le corps. Ah oui. Oh.
Corps.
Corps.
Eh bah oui, tout à fait, le corps.
Iseult avec cette chanson intitulée Corps, une chanson dans laquelle elle évoque le rapport douloureux au corps, aux normes et au regard social. Et à travers ce titre, elle revendique une visibilité hors des standards de la mode et des médias. Elle évoque aussi le regard des autres, les normes de beauté, la violence du body shaming. C'est une confession, en fait, tout simplement.
Alors, c'est quoi le body shaming ?
Alors, le body, c'est pas de la danse qui bouge.
Mais non, body, c'est corps.
Le corps.
Chaining. Non, pas Jenny.
Non, chaining.
Chaining.
Qu'est-ce que t'entends? Je préfère demander que dire n'importe quoi.
C'est en fait le fait de stigmatiser ou de discriminer une personne, en fait, à travers son physique. En fait, le body shaming, c'est la grossophobie, en fait.
Ouais. C'est un très beau, dire des très beaux messages, d'accord.
Ben non. Justement, body shaming, c'est pas un bon message.
Ah oui, donc. Mais dénoncer justement tout cela, quoi. Excusez-moi pour l'erreur. Ah non, mais tout le monde peut se tromper, au moins il faut savoir reconnaître.
Et surtout toi. Et dans cette chanson intitulée Corps, Iseult, elle exprime la souffrance liée aux critiques, la pression sociale, le sentiment d'inadéquation. Et pour elle, le corps devient à la fois un champ de bataille et un espace d'identité. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une chanteuse canadienne qui est devenue une amie, elle s'appelle Amé Laoni, qui a repris cette chanson dans ses concerts. Ah. Et ça lui va très très bien.
Mais d'accord. On a l'impression qu'elle a dû passer par des moments hyper difficiles parce que.
Oui, sans doute, oui, oui.
J'imagine, ce genre de révélation, c'est qu'elle prend le taureau par
les. Elle a aussi contribué à aider les gens à assumer leur physique, leur complexe, tout ça.
À retrouver une confiance. Hein.
C'est quand même très culturel. Hein,
Mais oui.
Il y avait toute une époque, la peinture et tout ça, les femmes qui étaient. Qui était bien ronde.
Et Botero, qui peignait des gens assez forts.
Oui, et puis tu as des pays où les femmes sont rondouillardes.
Et tu as des époques.
Ah, ouais. Ça,
oui, des époques.
Ah, complètement.
Des époques. Alors, de Rubens où les femmes étaient bien en chair et c'était la beauté, c'était les critères de beauté. Ouais, ouais.
Et on termine avec un peu d'autodérision parce que les artistes assument eux-mêmes leur corps en chanson. De qui il s'agit à votre avis?
J'arrive plus à marcher, rétention d'eau, donc je pète le haut. Dis, je suis pas à l'aise dans vos jeans.
Allez Manu.
Je pète le legging, faut comment.
Cette chanson date de d'il y a quelques années, d'il y a 6 ans. Alors ça vous dit quelque chose, Marwa Loud?
Non.
Et NASA, c'est un artiste urbain.
Au moins, non, NASA, non.
Je connais la NASA.
NASA. Non. Avec cette chanson intitulée, c'est eux-mêmes qui le disent, hein. Allez, négro. Mais c'est de l'autodérision, faut le prendre au 8e degré.
C'est un peu de l'ironie, quoi.
Je vous propose qu'on écoute le refrain.
Je m'entasse, je rajoute des kilos. Je piave, je veux pas de consigne. Patate en rap, sa mère. Comme à la cantine. T'es dans les pommes, sa mère. Comme à la cantine. Digo, j'ai damé. Et même un fait nuit qui peut pas me lever. Et quand mon bidon se vénère. Et même un fait nuit qui peut pas me lever. Je fais la malle.
Alors, ça, c'est une chanson, on va dire. Qui se veut joyeuse, et c'est un titre qui s'adresse à toutes les personnes qui ont des complexes et qui font face dans la vie quotidienne à des critiques sur leur apparence. Ils y abordent la grossophobie, les commentaires négatifs, notamment sur les réseaux. Ça, c'est un peu un clin d'œil au harcèlement en ligne.
Complètement. C'est un peu symbolique, quoi.
Voilà. Et ils invitent les gens à ne pas se laisser atteindre par des mauvais jugements sur leur physique. Et en fait, le titre Allez les gros, c'est une formule joyeuse et inclusive pour encourager les personnes rondes à s'assumer déjà et à s'aimer telles qu'elles sont. Merci à tous.
Eh ben, merci Kevin. Qu'il soit un symbole ou une caractéristique physique, le personnage en situation d'obésité dans la pop culture est représenté de différentes manières. L'obésité se lie d'une certaine manière à une notion de puissance ou de force, comme par exemple le sumo, ce célèbre sport de lutte japonais. Le combat sumo se caractérise par le gabarit des lutteurs ainsi que par les nombreux rites traditionnels qui entourent les combats. Les lutteurs ont un poids moyen de 150 kg, mais dans ce sport, c'est leur force à pousser l'adversaire qui est mis en avant. Dans la fiction, on peut retrouver des personnages dont l'obésité est illustrée de différentes manières. On pense par exemple au Kaïd dans les comics Daredevil. À la tête d'une mafia dangereuse, il est très souvent présenté en costard, ce qui lui donne une apparence très soignée. À l'opposé d'autres personnages comme Jabba the Hutt dans la saga Star Wars a un aspect répugnant mais a aussi une force considérable. Eric nous dévoile son analyse autour de deux personnages de la pop culture dans sa chronique.
Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Hé, tiens ! Ah ! Vous les deux gros, venez, je vous attends.
Il n'y a pas de gros, il n'y en a qu'un et il n'est pas gros.
Et ce stupide petit guerrier arrogant va maintenant rejoindre son gros complice au cachot.
Oh, ce ne suis pas
le gros. Tu conduis sur le mauvais côté de la route.
Hein? Qui est gros?
En Bretagne, nous conduisons sur le bon côté de la route. À gauche.
Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne suis
là-bas,
pas gros.
Là-bas, sont deux. Hein? Attrapez-les.
Contrairement à ce que peut représenter certaines idées de l'obésité, j'ai sélectionné deux personnages de la pop culture qui prend en compte cet aspect et qui en fait un trait de caractère fort et parfois même met en évidence une certaine force physique. Donc je me suis vraiment focalisé sur ces deux aspects donc de l'obésité. Alors je vais bien entendu vous citer deux exemples dont le premier est connu de tous. Et vous allez le reconnaître, je suppose, ou si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Et bien le personnage d'Obélix.
Ah oui.
Que vous connaissez tous, nous intéresse ici car bien que nous pouvons le définir comme obèse, celui-ci ne se définit pas en tant que tel et il n'y a qu'à lire les albums ou regarder les adaptations pour s'apercevoir qu'à chaque remarque sur sa corpulence, il recadre tout de suite en disant qu'il n'est pas gros. Les auteurs René Goscinny et Albert Uderzo souhaitaient, en créant ce personnage, un anti-héros, à l'inverse de ce que l'on pouvait retrouver dans l'univers du Neymar à cette époque. Alors plus qu'un personnage de faire valoir, l'acolyte d'Astérix est certes corpulent, mais grand et fort avec de très gros bras.
Ah c'est vrai, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas vraiment vu comme ça. C'est vrai que Obélix, ça sonne comme une connotation avec bah, obèse.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Non mais ouais, en effet, peut-être que ça venait de là, ouais. Alors, il est très apprécié des lecteurs. Obélix a un caractère très attachant, il est sensible, parfois même susceptible. Mais si on l'aime beaucoup, c'est parce qu'il a un petit quelque chose qui résonne en nous. Il est un grand gourmand. Alors oui, il est tombé dans la potion de Panoramix quand il était petit, on se souvient tous de la soupe du druide du village, mais sa force fait de lui un personnage respectable. Si nous mêlons tout cela à son côté naïf, nous avons tous envie de l'avoir comme meilleur ami. Allez, de la bande dessinée, on file vers les livres avec le roman Dune de l'auteur Frank Herbert, que vous connaissez tous, j'imagine.
Oui. Il y a des films là qui
ah oui,
sont
bah,
sortis.
En plus. Voilà. Et on
c'est
va
Manu
se.
Que...
Non, je suis. Oui, non, je regardais le beau sourire d'Eric, mais je ne vois effectivement
pas. T'es charmé par le sourire d'Eric.
Ah bah, bah.
Non, mais je...
c'est gentil.
Non, mais je regardais, mais je ne voyais pas. Elle me connaît bien, Didier. Oh là là. C'est vrai que.
Tu sais pas ce que c'est Dune.
Non, effectivement, je suis franc. J'ai dit ouais, mais sans beau sens.
La seule Dune que tu connais, c'est Depi là.
Non. Non, mais j'ai hâte de découvrir parce qu'à mon avis, s'il en parle. C'est une certaine intelligence, j'imagine.
Bah oui, donc on va se concentrer sur un des personnages de Dune, donc le baron Vladimir Harkonnen. Donc, alors, pour petit Manu...
Et les autres, il y a d'autres personnes dans le monde comme moi.
Ah oui,
ah bah j'en connais,
dans
je suis
le
pas
monde,
le seul. Hein,
carrément.
Ah bah je reconnais volontiers. Hein. Ah. Je t'écoute.
En fait, c'est, pour résumer, Dune, déjà dans la pop culture, c'est vraiment une référence puisqu'il il fait partie de la France, qui a eu connu des suites par d'autres auteurs qui l'ont repris, mais qui, où on trouve encore des inspirations, dont, en effet, Didier, tu disais, il y a des films qui sont sortis, je vais en revenir. Le roman raconte l'histoire du jeune Paul Atreides, dont la famille accepte à contre-cœur la tutelle de la planète Arrakis, donc on est vraiment dans un univers de space opéra. Dans le livre, le baron Vladimir Harkonnen est décrit comme un personnage obèse, cruel et avide. Son poids corporel est tellement important qu'il se déplace en lévitation par un procédé inventé appelé suspenseur. Sa posture, sa voix très basse, à la limite grondante comme un orage, et le fait qu'il gravite lui donne un charisme effrayant. Sa force est également importante. Dans le livre La Maison des Atreides de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, donc, publié en 1999 à partir des notes de Frank Herbert, donc c'est vraiment une suite, mais pas du même auteur. Donc se déroule une trentaine d'années avant Dune, comportant 3 tomes, on apprend que son obésité est due à une maladie transmise lors d'un viol qu'il aurait commis. Alors là, c'est intéressant de voir un peu cette facette. Par exemple, Obélix, son obésité, il est vu comme quelque chose d'attachant.
Alors, chez Obélix, à l'époque, il aimait beaucoup manger du sanglier. C'était un peu festif. Oui. C'était, oh là là, c'était, ils n'allaient pas par le dos de la cuillère, quoi. C'était, ils en profitaient un peu. C'était verroulant, quoi.
Et ben, d'ailleurs, pour Obélix, on peut dire que le charme s'est opéré parce qu'il est tombé, lui, donc dans la potion.
Complètement, c'est ce qu'on dit.
Alors que là, l'auteur, justement, avec le baron Vladimir Harkonnen, le place comme quelqu'un qui a subi, donc la suite d'une maladie, devient obèse, comme un sortilège au fait, quoi. Parce qu'il a commis ce viol et il a cette maladie suite à ce viol.
Et devient... question, quand je me souviens de la scène, c'est horrible.
Ah ouais
quand le méchant il se transforme, c'est ça.
Oui, c'est, voilà, après. Moi, je l'ai pas vu cette scène dite. Alors, il y a peut-être moi, j'ai vu les dernières versions, mais j'ai pas vu en entier, en tout cas, l'entièreté de la première version de David Lynch. On le voit comme un puissant stratagème, en plus d'être habile et rusé, il manipule et a toute une armée avec lui. Donc dans la version filmée de David Lynch de 1984, il a une apparence un peu repoussante. Donc je vous propose d'écouter l'extrait où il s'en prend justement à la maison Atreides.
Au revoir Jessica, et au revoir à ton fils si mignon. Je veux te cracher une fois au visage, quelques postillons sur ta figure. Ça, c'est un luxe. Vous avez ordre de les tuer, alors tu les. Comme je voudrais que ce fût Paul. J'ai connu la femme de Yue. C'est moi qui ai fléchi le conditionnement impérial du docteur. J'ai rêvé de bien des plaisirs avec vous. Mais peut-être vaut-il mieux que vous finissiez dans les entrailles.
Dans la version de Denis Villeneuve de 2021 et 2024, hein, on en parlait au début de la chronique, dont le troisième opus sort cette année, le baron Harkonnen est beaucoup moins repoussant et on le craint d'une autre manière. Il est effrayant par sa force et non pas par son physique déjà imposant. L'apparence dans les derniers films est différente. Le baron est chauve et il a le teint pâle et sa tenue flottante. Alors peut-être que cette apparence plus esthétique provient de l'inspiration des dizaines d'artistes H.R. Giger, donc à qui on doit l'apparence de la saga Alien. Hein, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour les films de science-fiction. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, il y avait un réalisateur qui s'appelait Alejandro Jodorowsky. Et donc, c'était un projet inachevé. Il avait donc le projet de faire Dune, donc déjà dans les années 70, qui n'a pas vu. Et il y a eu pas mal de croquis qui ont été faits. Et ces croquis ont été donc gardés. Et peut-être que le réalisateur de Dune qu'on connaît, donc Denis Villeneuve, s'est inspiré. Peut-être que cette version-là est tirée justement de Jodorowsky, où il a investi de manière un peu brutale la maison d'Atreides par le baron Harkonnen. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter justement un extrait du baron Harkonnen de la version de Denis Villeneuve.
Mais c'est terminé. Votre fils est mort, votre concubine est morte. Ce soir signe la chute de la maison Atreides. Et la fin de votre lignée. Qu'est-ce que vous avez dit ? Tel je suis, tel je reste.
Alors, vous l'avez constaté, hein, d'Oblix au baron Harkonnen, il y a deux facettes. Dans les deux cas, l'obésité est représentée non pas de manière péjorative, mais plutôt illustrative. Et si l'un est costaud et attendrissant, l'autre, en revanche, est handicapé par sa corpulence et sa cruauté. Amis de la pop culture, merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles chroniques pop.
Eh ben merci Eric.
Et merci de tes explications. Je suis très reconnaissant Eric. J'ai appris des tas de choses. Peut-être vous aussi dans le monde.
Et cette émission sur l'obésité, c'est déjà fini.
Oh là là, on a appris des tas de choses. C'était ouh.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. Il y a de nouvelles radios qui nous rediffuse, dont à Stepline Radio, qui rediffuse l'émission tous les vendredis à partir de 20h. C'est la première web radio associative du vignoble nantais. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe suivant du regretté Guy Bedos. Personne n'est à l'abri d'une sorte d'obésité morale. Il est nécessaire de se faire transpirer l'âme.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Oh, on verra une semaine pour la semaine prochaine. J'ai pas le temps de regarder dans toutes ces émotions.
Ses émotions.
T'es censé l'avoir déjà écrite, wow. Ta chronique.
Oui, attendez.
C'est les.
Attendez, je vais vous tenir au courant parce que.
Les.
Super.
Les super.
Les
super-héros.
Les super-héros, excusez-moi. On l'a fait collectivement. Mais c'était riche en émotions. Hein. Osmond n'est pas cardiaque. On est là, invincible. Les super-héros.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Bye.
Bye.
À la prochaine.
Bye. Bye. Salut.
Ok, let's stop.
Et le monde va pas bien.
Ça brûle, ça faille, pas top pour demain.
Mais demain c'est demain, aujourd'hui il y a du taf.
Y'a des patients perdus auxquels on fait moins gaffe.
Chers collègues, dans ce texte, je vous parle de mon quotidien.
C'est de chercher une aiguille dans une botte de foin.
Aider au diagnostic d'un bug génétique. Pour que rare rime enfin avec thérapeutique.
Je parle patient, tous les jours, tout le temps, j'agis pour les patients. Se battre contre les rangs, c'est une quête intense. Inspirer la confiance, ça donne tout son sens.
Jamais lâcher l'affaire, toujours rester partenaire. Le secret dans le rare, c'est la persévérance. Ça paraît précieux, il faut saisir sa chance. La chance de s'engager et de s'impliquer.
Jamais rien sans l'écrit, ça c'est mon principe. Je compte sur toi et tu comptes sur moi. Finalement bienveillance, ça peut avoir du sens.
S'il n'y avait pas cette confiance, nous serions dans les ronces.
Je me couche ce soir, le monde broie du noir.
Seulement voilà, moi je sais qu'il y a de l'espoir.
L'espoir pour les malades, n'être plus orphelin.
Dites-vous bien qu'on est là et qu'on vous tend la main.
Je suis là, 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 je su
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.